Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
Partir de zéro, c'est partir de zéro sans aide financière, sans qu'on nous ait prêté de l'argent, sans aide sociétale, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'école de commerce, qu'on n'a pas de levier de contact.
100% des plus grandes transformations dans ma vie, quelles qu'elles soient, sont issues de rencontres. Donc naturellement, j'ai qu'une envie, c'est d'en faire plus, parce que c'est de l'effet cumulé et c'est la somme de tous ces éléments qui donne le résultat de là où j'en suis aujourd'hui et là où j'en serai demain.
On a des biais cognitifs, on a des mécanismes, et franchement, quand ça fait 13 ans que tu fais de la merde, sortir de 13 ans de merde, c'est extrêmement dur.
Moi, j'ai un plan sur 15 ans, je suis à 12, avec des petites actions chaque jour à faire. Donc j'ai ma to-do list tous les jours et j'avance.
Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Badeau.
Je suis très heureux de vous retrouver sur BFM Business pour la saison 4 du podcast des indépendants. Vous avez été près de 300 000 à écouter la saison 3, plus de 4 millions de vues sur les réseaux. On espère qu'on fera au moins aussi bien pour cette saison 4. 4 invités déterminés et c'est comme ça que je voulais commencer cette saison 4 avec un épisode très positif dans un contexte assez particulier, il faut le dire, pour le business, avec un contexte politique, économique, différent de 2025, avec des processus d'achat qui changent. Bref, on sent que les choses changent en matière de business. L'objectif de cet épisode, c'est de vous rebooster et vous allez voir que ça va être le cas avec ces 4 invités que je laisse Omblin vous présenter.
Première invitée, Justine Galis, fondatrice de l'app de sport et nutrition personnalisée Gritty. Gritty, c'est aujourd'hui 35 collaborateurs et 8 millions de chiffres d'affaires annuels en partant de zéro avec les réseaux. Justine s'est lancée en auto-entreprise en 2011 pour compléter son salaire de vendeuse. Aujourd'hui, 1,3 million de personnes la suivent sur Instagram et TikTok et plus de 900 000 sur YouTube. C'est avec son mari Thibaut Geoffrey qu'elle développe Gritty depuis Lyon. Deuxième invité, Alec Henry. Hier employé d'usine et agent de sécurité, Alec Henry est aujourd'hui à la tête d'Entrepreneurs.com, qui compte plus de 140 collaborateurs. Entrepreneurs.com accompagne les TPE, PME dans leur développement et revendique plus de 11 000 TPE, PME accompagnés. Il est aussi le créateur du podcast Le Déclic, qui donne la parole à des entrepreneurs et personnalités au parcours extraordinaire et souvent hors du cadre. Troisième invité, Ludovic Baron, artiste photographe et réalisateur français exposé dans des lieux emblématiques comme l'Opéra Garnier et la Tour Eiffel, ou le printemps de New York avec plus de 2 millions de visiteurs et plus de 10 000 œuvres vendues dans le monde. Il a récemment cofondé Exclusive.world, une plateforme de galeries 3D immersive pour créer des expériences culturelles premium à l'échelle mondiale. Comme nos autres invités, Ludovic a démarré sans réseau, sans soutien financier. Quatrième et dernière invitée pour lancer la saison 4 du podcast des indépendants sur BFM Business, Miss Buffet-Froy, alias Buffette, un pseudonyme officiellement déposé chez le notaire. Auto-entrepreneur et ORSA, elle traverse 13 années compliquées avant de décider de reprendre sa vie professionnelle en main. Aujourd'hui, Miss Buffet-Froy réalise près de 60 000 euros de chiffre d'affaires par an en tant que photographe portrait. Elle associe à la photo le coaching pour révéler les personnalités dans ce qu'elles ont de moins lisse.
Bonjour à tous.
Bonjour Ludo.
Merci d'être là pour ce lancement de 4e saison du podcast des indépendants. Et la première question que je voudrais vous poser, parce que l'épisode s'appelle « Partir de zéro ouais. », ça veut dire quoi « partir de zéro » ? Est-ce qu'il faut forcément être SDF ou abandonné par sa famille, Alec ?
C'est une bonne question. Je pense que partir de zéro, c'est propre à chacun, parce que tous les 4, on est parti de zéro. Tous les 5 même, indirectement aussi. Toi aussi, tu as ton parcours et puis chacun a le sien. Et donc, chacun à son point de départ, mais personne n'a réellement d'arrivée parce qu'on a un point commun, c'est qu'on est tous entrepreneurs et l'entrepreneuriat, c'est un jeu infini. Maintenant, il y a parfois des montagnes russes émotionnelles, mais aussi réelles dans le concret. Et partie de zéro, pour moi, par exemple, je suis né dans une petite ville où il y avait plus de vaches que d'habitants, sans réseau, sans forcément me lancer ou quoi que ce soit, ou avoir des ressources pour pouvoir démarrer, en étant timide, introverti. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait des possibilités et j'ai essayé de les saisir tout simplement.
C'est important de préciser ce que ça veut dire partir de zéro, parce qu'il y en a qui vont regarder l'épisode au départ et qui vont se dire « Attends, ils partent vraiment de zéro, eux ?» On est très nombreux à partir de zéro parce qu'on n'a pas le réseau, parce qu'on n'a pas la confiance, parce qu'on n'a pas le soutien familial, parce qu'on n'a pas l'inspiration aussi, et donc on décide de se lancer, alors qu'à la base, on n'a personne finalement pour nous épauler, Buffette.
Des fois, c'est un peu dur. Si j'ai un conseil vraiment par rapport à ça, c'est l'intelligence relationnelle, c'est trouver l'écosystème. À un moment donné, on doit faire des choix. À des moments donnés, c'est compliqué. Mais l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur qui on est, sur nos objectifs. Parce que justement, partir de zéro, ça veut peut-être pas dire les mêmes objectifs pour tout le monde. C'est ça qui est important, en fait. C'est vraiment avoir un écosystème et trouver des gens qui nous permettent d'avancer, en fait.
Oui, d'ailleurs, vous n'êtes pas tous au même stade. Hein. On n'est pas là pour... On a sur ce plateau des entrepreneurs qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. On en a qui ne font pas encore le million, mais c'est pas ça l'idée. En fait, l'idée, c'est simplement d'être dans l'évolution, Justine.
Oui, moi, je pense qu'en plus, ça permet de créer sa chance. Là où, justement, avant, il n'y avait pas forcément de quoi casser les plafonds de verre. On peut partir d'un milieu modeste, effectivement. Et moi, comme je te l'avais dit aussi à titre perso, quand on avait discuté ensemble, pour moi, partir de rien, c'est... Je suis très engagée sur ce sujet parce qu'aujourd'hui, tout le monde se vante d'être un peu parti de rien. C'est un peu la grande mode. Tout le monde est parti de zéro. Mais comme l'a dit Alec, ça dépend de, vraiment de ce qu'on considère partir de zéro. Moi, je peux dire aussi ce que je considère comme partir de zéro, c'est partir de zéro sans aide financière, sans qu'on nous ait prêté de l'argent, sans aide sociétale, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'école de commerce, qu'on n'a pas de levier de contact, qu'on n'est pas issu d'un milieu de caste parisien de start-upers qui maîtrisent déjà, qui savent lever des fonds alors qu'ils sortent à peine d'une école. C'est vraiment le partir de vraiment de zéro. Et on pense que c'est facile de partir de zéro, mais quand on se rend compte qu'on entreprend, plus on entreprend dans la vie, plus on se rend compte que c'est compliqué. Et je trouve qu'on est à une ère, grâce à notamment à l'ère numérique, et plus là d'où je suis issu, on peut créer sa chance. Et c'est ça qui fait qu'on peut partir quand même de zéro et transformer en quelque chose de très, très grand, bien plus facilement qu'il y a 10, 20 ou 30 ans.
Finalement, en un mot, partir de zéro, c'est ne pas avoir les codes.
Les codes financiers et sociaux. Hein.
Les codes financiers et les codes sociaux, effectivement. Parce que c'est vrai que tu disais école de commerce, etc. Et c'est vrai que quand tu connais du monde, c'est tout de suite plus facile. Toi, Ludo, c'est pareil. Tu es parti un peu de ta province avec tes rêves, finalement.
Complètement. Moi, dans l'art, soit je pouvais faire des études, comme on pourrait dire, les grandes écoles d'art, etc. Mais je n'ai jamais été scolaire. Donc, c'était un gros problème. Et je me suis dit, comment je vais faire? J'arrive à Paris, je ne connais personne, j'ai aucun moyen. J'ai dû faire des crédits, des jobs, des machins, mais des jobs. Et franchement, j'étais assez sans caissier et tout ça. Hein. J'ai tout fait, quoi.
Ouais.
Et parce qu'il faut survivre. Et donc, quelque part, on a notre rêve qu'on met un petit peu de côté. À un moment donné, on prend la décision que c'est... Il faut en fait que notre passion, si on le souhaite vraiment, devient notre moteur, quoi. Et on décide de tout plaquer, tout ce qui est à côté, et on ne fait que ça, focus, malgré les difficultés.
Et c'est ça, à un moment donné, c'est de prendre la décision d'agir pour ne pas rester dans sa situation. Il y a plusieurs, vous avez finalement plusieurs chemins, enfin c'est des chemins différents. Je sais que Justine, toi t'étais plus sur le hobby, c'est la passion qui est devenue finalement un métier. Et tu me disais d'ailleurs en préparant cet épisode qu'à la base, t'es devenu entrepreneur par la force des choses.
Moi j'ai plus créé ma chance. C'est-à-dire qu'on a tous à un moment donné dans notre vie des opportunités. Qu'on se crée ou qu'on rencontre un peu par chance aussi, j'ai su les saisir au bon moment. J'ai commencé par une passion, j'ai vu qu'il y avait des opportunités et c'est là qu'on peut dire que j'ai eu l'œil entrepreneurial, même avant de rencontrer mon mari avec qui j'ai beaucoup entrepris ces 10 dernières années. C'est comment à un moment donné, j'ai décelé qu'il y avait une opportunité, à quel moment j'ai décidé de la prendre, de la saisir, alors que j'aurais pu ne me sentir pas légitime, que j'aurais pu ne pas pousser, c'est-à-dire c'est contacter des gens et pas attendre qu'on nous contacte, c'est créer de la valeur avant qu'on nous demande d'intégrer un projet. Et donc, j'ai commencé avec le sport passion, les réseaux sociaux passion, et j'en ai créé quelque chose derrière.
Quelque chose de conséquent, puisque je crois qu'aujourd'hui, tu as 1,2 million sur les réseaux. Combien d'utilisateurs sur l'application?
Là, on est en pleine période de campagne de promo. On va sûrement dépasser les 100 000 abonnés payants. Et on a plus d'1,5 million de téléchargements et sûrement on va clôturer l'année à plus de 8 millions de chiffre d'affaires.
Plus de 8 millions de chiffre d'affaires, plus de 35 collaborateurs, 1000 mètres carrés de studio.
Oui.
J'ai tout noté.
Oui, hein.
J'ai tous les détails.
Les chiffres sont bien.
C'est bon. Alec, il y a un mot qui te caractérise beaucoup. C'est le mot aussi quand même détermination. Je trouve que ça vous caractérise tous les quatre. C'est qu'à un moment donné, il faut être déterminé. Et pour être entrepreneur et pour aussi ne pas venir du milieu de la télévision et pour être ici... Je sais effectivement que c'est l'un des mots-clés, c'est qu'il faut être déterminé pour y arriver. Quoi.
Surtout résilient. Surtout résilient parce que c'est vraiment pas un long fleuve tranquille. T'évoquais très justement, Justine, ce côté tu crées ta chance. Mais finalement, la chance, on la crée, mais d'abord, il faut savoir l'identifier. Et au départ, on va même pas, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas voulu être entrepreneur. J'ai juste voulu me débrouiller. J'ai trouvé des solutions. J'ai mis en place des choses. Et puis, naturellement, je me suis rendu compte qu'il y avait un mot qui s'appelait l'entrepreneuriat, qui désignait cette notion de résoudre un problème, créer quelque chose, le vendre aux personnes qui en ont réellement besoin, créer de la valeur autour de tout ça. Et proportionnellement à la valeur que tu créais, eh ben, tu étais rémunéré pour et tu pouvais avancer.
Ah, donc, tu ne voulais pas être entrepreneur. Donc, en fait, tu as pris goût à l'argent.
Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de liberté. Moi, je me suis retrouvé très rapidement propulsé dans une usine. Je n'avais pas de diplôme spécifique. J'étais un cancre à l'école. Tous mes profs me disaient que je me sapais tout seul, que j'allais rater ma vie. Donc, je suis ouvrier à l'usine. Je vois des gens qui n'aiment pas leur quotidien. Il n'y a pas de saut métier, mais la réalité, c'est que ce n'était pas du tout épanouissant. En plus de ça, j'avais pas confiance en moi, j'étais introverti, timide et autres. Et là, je me rends compte que la vente permet, et le développement personnel également, permet de pouvoir monétiser quelque chose, gagner un revenu différemment que le schéma traditionnel. Donc, je vais devoir
trouver quel va être le véhicule. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est le levier d'élévation sociale le plus puissant qui existe.
Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'on n'est pas juste là pour dire effectivement gagner beaucoup d'argent, même si c'est toujours intéressant et stimulant quand on est entrepreneur. C'est aussi en fait d'évoluer, de s'élever, de se challenger, de se mettre aussi à des moments des coups de fouet. Ouais. T'es obligé d'être plus discipliné parce que en plus, tu peux réussir à un moment et puis le lendemain, en fait, tout a changé, surtout dans la période qu'on traverse. Et c'est aussi ça l'objectif de l'épisode, c'est aussi de dire il faut rester déterminé et résilient, comme tu dis, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Tu peux gagner un jour, mais peut-être pas le lendemain. Buffette.
Ouais. Ouais, peut-être pas le lendemain. Et du coup, j'ai envie de rebondir sur un truc.
Vas-y.
C'est que justement, on n'a pas forcément les mêmes objectifs. Mais s'il y a un truc que je retiendrai là, c'est de s'écouter soi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc-là de la compréhension de qui on est. La compréhension de qui on est dans son business, c'est tellement, tellement, tellement important. Parce que moi, du coup... RSA, pas dans les cases à l'école, c'était catastrophique. Et pareil, j'étais quelqu'un d'assez hors norme dans tous les sens du terme. Et donc, c'était vraiment la cata pour tellement de gens.
Et tu savais pas trop te situer, tu savais pas qui t'étais toi-même.
En fait, j'avais l'impression, désolée de le dire comme ça, mais j'avais l'impression d'être une sous-merde, en fait. Parce qu'à l'école, mes parents me disaient tout le temps, c'est les ingénieurs les meilleurs. Donc moi, j'étais là, oh là là, je suis dyscalculique, au secours. Donc c'était vraiment très compliqué. Et en fait, j'ai commencé à comprendre qui j'étais. Alors, j'avais pas forcément de vision d'entrepreneuriat, j'avais pas cette vision-là, mais du coup par contre je me suis formée et j'ai rencontré des gens qui étaient beaucoup plus calés que moi dans l'entrepreneuriat parce que j'ai des expertises, j'ai des choses, mais du coup je m'informe énormément, je me forme énormément et c'est ça qui est important en fait.
Ouais, ce qui est important c'est aussi de sortir un peu de son marasme en fait et de sortir un peu de son isolement quand on sait pas quoi faire de sa vie ou quand on traverse une période difficile. Et c'était un peu avec cet esprit-là que moi j'ai envie de faire le podcast des indépendants et cet épisode plus particulièrement. C'est, je me dis, c'est un moyen de transmettre une énergie en fait. On sait que c'est assez compliqué là actuellement pour beaucoup d'indépendants. Il y a eu un record de faillites d'entreprises l'année dernière en 2025 parce que le contexte est très difficile et en fait on se rend compte que si on n'écoute pas les bons podcasts ou si on fréquente pas les bonnes personnes ou si on se forme pas, on peut vite rester bloqué quoi.
Complètement. Et du coup je vais rebondir puisque moi ça fait depuis 2010 que je suis entrepreneur et les 13 premières années c'était catalangue. Enfin, il y a vraiment, c'était l'enfer, quoi. Et au bout de 13 ans, je me dis, non, mais meuf, il faut réagir, il faut faire un truc. Et donc là, j'ai commencé à me former, j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient plus smart que moi en entrepreneuriat. Et c'est là où vraiment ça a tout basculé, quoi.
C'est là où ça se joue, en fait, c'est de rencontrer les bonnes personnes. Et aujourd'hui, tu fais quoi, 58 000 euros de chiffre d'affaires, quoi. Et c'est récent, finalement, t'as mis du temps, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, t'es resté un peu dans. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est pas passé mieux avant?
En fait, j'ai 47 ans. Presque boomeuse. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout con, mais on a des biais cognitifs, on a des choses qui sont ancrées en nous, on a des mécanismes. Et franchement, quand ça fait 13 ans que tu fais de la merde, sortir de 13 ans de merde, c'est extrêmement dur. Donc, il y a un moment donné, j'ai eu un déclic, un truc horrible dans ma vie, mais bref, qui a fait que je me suis pris une grosse claque. Et là, je me fais « Ok, meuf, il te reste peut-être... » Ouais, je suis allée voir mes points retraite et là, ça a été... Voilà.
Oui, ça calme. Je l'ai fait aussi. J'ai fait « Waouh !»
Voilà. Mais c'est là où j'ai pris conscience qu'il fallait que je m'entoure de personnes peut-être qui réussissent et qui me donnent des clés pour pouvoir réussir. Et donc, en 2 ans, alors ça a mis du temps, certes. Je suis assez contente quand même de mes objectifs puisqu'en fait, je les ai atteints, en fait.
Si je peux me permettre, dans quelle mesure t'as changé, par exemple, ton rapport à l'argent?
Voilà.
C'est vrai, on en a parlé pendant la préparation.
Et oui, et le premier des points que t'as évoqué, c'est « Ah, t'aimes l'argent !» Et là, typiquement, dans ton cas, sans même se connaître personnellement ou autre, le premier des sujets, c'est le rapport à l'argent. Et aujourd'hui, s'il y a des faillites ou des gens en difficulté, etc., c'est pas le contexte, c'est pas l'économie, c'est pas le fait que quelqu'un est plus intelligent qu'un autre, c'est d'abord son rapport à l'argent et son rapport à soi-même. Et si déjà on vient travailler ça et casser les limites liées à ça, et c'est pas un truc de gourou que je suis en train de partager, c'est juste factuel, aujourd'hui on est dans une société, et encore plus en francophonie, en particulier en France, les gens ont une problématique au rapport à l'argent. Si déjà tu débloques ça et tu sais que l'argent que tu vas recevoir est proportionnel à la valeur que tu vas créer et délivrer, et qu'en plus de ça, t'arrêtes de t'auto-flageller et puis souvent ne pas vouloir accepter ta valeur réelle sur le marché, tout de suite, tu casses tes plafonds de verre et tu peux réellement avancer.
Je faisais un parallèle avec le contexte économique parce que la réalité, c'est qu'à cause du contexte politique, les processus de décision sont plus longs, les entreprises sont plus frileuses et donc il y a moins aussi d'investissement. Enfin, c'est les retours qu'on a des indépendants. Et c'est vrai que si en plus ton rapport à l'argent est un peu honteux, comment tu fais pour te défendre en fait et comment tu fais pour continuer à vendre dans un contexte qui est encore plus tendu? tendu finalement. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, parce que toi, tu disais, pour moi, l'argent, c'était le mal avant finalement.
Ah oui, complètement, hein, complètement. Ouais. Pour moi, c'était les gens riches, c'était vraiment le ouh, les méchants. Et quand on a discuté pour préparer l'émission, en fait, moi, j'ai pas du tout de tabou par rapport à ça. En ce moment, je suis en train de faire de l'éducation financière avec quelqu'un qui m'explique, parce que quand on est entrepreneur, il y a aussi ça. Bien sûr. Au niveau des investissements, comment est-ce qu'on fait concrètement, enfin. C'est vraiment un truc, et en France, je ne comprends pas trop pourquoi il y a ce truc-là par rapport à l'argent. Et même quand on est entrepreneur et qu'on gagne, alors bon, moi, je n'ai pas forcément ce que vous gagnez, mais même avec mes 58 000, il y a ce truc-là, ben, je n'ai pas honte de dire que oui, je suis suivi par quelqu'un qui me fait de l'éducation financière.
Il faut se faire accompagner. Et Ludo, ça, je sais que chez toi aussi, c'est hyper important, c'est la notion d'être entouré des bonnes personnes, de connecter avec les bonnes personnes. Toi, tu as tout de suite aussi pris conscience que l'entourage était déterminant.
Ah oui, ça change absolument tout.
Mais c'est pas un vrai mot, parce que je sais, j'ai l'impression qu'on le répète toujours, tu sais, de dire vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. Mais c'est un fait. C'est-à-dire que si vous fréquentez pas les bonnes personnes et que vous fréquentez pas des gens qui vous inspirent, vous allez forcément stagner et vous allez tous vous ressembler. Enfin, vous allez vous ressembler.
Dans mon contexte précis, je crée des œuvres d'art, mais je les fais pas seul, puisque j'ai toute une équipe. On crée en équipe, maquilleur, coiffeur, styliste, décorateur, studio.
Tu fais bosser du monde, ouais.
Donc il y a du monde autour. Et donc c'est hyper important. Pourtant, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une œuvre d'art qui va être accrochée chez un client, c'est de le faire rêver, c'est de l'évader. Moi, je connecte avec des personnes qui me ressemblent finalement, mais qui n'ont juste pas la fibre artistique. Ça veut dire que mes clients, c'est des personnes qui sont exactement comme moi, qui ont les mêmes passions, les mêmes valeurs humaines, etc., mais qui ne savent pas créer. Et donc, ils ne vont pas pouvoir eux-mêmes faire une photo et la mettre sur leur mur. Donc, ils vont être heureux de rencontrer un artiste qui sait le faire. Et donc, quand je crée, j'ai hyper besoin, c'est hyper important pour moi que tous mes collaborateurs soient des personnes qui soient dans la même énergie, qui soient alignées à moi. Donc, parfois, ça m'arrive, entre guillemets, tu peux avoir une personne qui est un peu en dessous, etc. Quand tu es un peu le maillon faible de
oui,
la team et que
les équipes,
ça tire tout le monde vers le bas.
T'en as un qui ne suit pas et qui freine tout
le temps.
C'est terrible.
C'est terrible.
Et ça, c'est quand on parle d'un travail en équipe, mais dans ta vie sociale. Parce que, pourquoi je souligne ça? Parce que moi, ça me rappelle des moments compliqué que j'ai pu traverser comme beaucoup, et je me suis rendu compte qu'en connectant avec les bonnes personnes, c'est vraiment pas une bêtise, ça change vraiment les choses. Et donc c'est d'avoir aussi une stratégie presque de vie sociale, quoi. Et donc, tu l'as ça, Ludo?
Mais alors moi, je le fais d'une manière tout à fait inconsciente. Je pars toujours du principe qu'on est de l'énergie.
Ouais.
Donc on se lève le matin, on est une batterie, on a on commence à 10, et après qu'est-ce qu'on fait de cette énergie? Est-ce qu'on va la mettre dans notre passion, dans un métier qui nous stimule, ou est-ce qu'au contraire on va subir notre journée, ou on va avoir des personnes qui vont nous vampiriser? Parce qu'il y a des personnes, ils prennent toute ton énergie,
ouais.
Et même parfois à crédit. Ça veut dire que pendant une semaine, tu comprends pas, t'es KO, t'es malade et tout. C'est juste t'as une personne toxique dans ton entourage. En fait. Donc, il faut revoir aussi de ce point de vue-là.
Ça, c'est déterminant. Et toi, Justine, du coup, tu entreprends avec ton mari. Ça aussi, c'est un gros plus.
Ah oui, nous, c'est un gros soutien. Hein, parce que quand tu te retrouves seule dans ta tour, quand tu commences à développer, que ce soit à 58 000 euros par an ou à plusieurs millions, c'est pareil. On a connu toutes ces étapes d'évolution, mais on les a connues ensemble. On a grandi ensemble. Et heureusement, comme on l'a déjà expliqué dans d'autres apparitions en couple, nous, on se tire vraiment vers le haut avec Thibaut et on est complémentaires. Mais ça n'empêche pas qu'on a les mêmes problèmes que tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut, revoir le cercle. Quels sont les gens qui sont autour de nous, qui peuvent avoir des pensées limitantes sur l'argent, sur le déplacement géographique, sur la vision de la vie, la vision de la parentalité, sur quels sont les gens qui vont continuer à entretenir des facteurs limitants qui sont liés à ton milieu social d'origine. Parce que justement, quand tu pars de rien, tu n'es pas entouré de gens qui vont te dire que ta vie, tu peux l'avoir autrement que comme, on va dire, quand on débute dans un foyer très classique, on a une vision très classique de la vie, drivée par des salaires qui sont fixes, avec des craintes sur la vie quotidienne. Et même en développant plus le business, en fréquentant un peu plus, en montant à Paris un peu plus, j'ai découvert des gens qui avaient d'autres manières de vivre, qui ont élargi ma vision, qui ont élargi ma manière de voir le monde. Et ça m'a aidé à entreprendre et ça m'a donné moins peur de prendre certaines décisions.
Tu te dis que là, en fait, finalement, tout est possible quand tu fréquentes les bonnes personnes.
En France, on n'est pas comme aux États-Unis où les gens ils se fréquentent et puis ils ne se posent pas la question. Nous, en France, il y a un lien très social, je trouve. On ne devient pas amis comme ça, on ne fait pas copain avec n'importe qui, n'importe comment, si tu n'es pas présenté dans un cercle, etc. Et c'est ça qui est peut-être plus dur, je pense, à travailler. Mais après, quand on crée sa chance à travers l'art, à travers les réseaux sociaux, à travers l'entrepreneuriat, on peut accéder à d'autres milieux, rencontrer d'autres gens qui vont être intéressés par nous pour d'autres raisons, mais qui vont permettre de développer du lien.
Je rebondis, si je peux me permettre, Ludo. C'est hyper juste ce que tu dis et je trouve ça hyper intéressant dans le fait où, quelque part, on se reconnaît. Je veux dire, tout à l'heure, on a parlé 2 minutes. Tout de suite, on a été connectés. J'ai senti tout de suite qu'on était dans la même vibe, tu vois. Donc voilà, je veux juste te dire que, quelque part, partout où tu vas, si tu sors de chez toi, tu vas forcément connecter avec les bonnes personnes assez facilement si toi-même, tu es déjà dans ce mood-là. Donc voilà, il faut s'écouter et faut surtout oser. C'est vraiment le fin mot, c'est oser approcher, quoi.
Et c'est important de le dire aussi que il y en a qui vont écouter, qui vont dire non, mais attends, ils sont dans leur sphère, ils sont à Paris, regarde-les sur leur plateau à nous expliquer qu'il faut connecter entre tous, etc. Et ça peut paraître pour le coup déconnecté. Et c'est pour ça que quand on regarde, et moi je choisis pas n'importe quels invités pour porter mes sujets, pour incarner mes sujets. Et je sais qu'ici autour de sur ce plateau, on a vraiment 4 personnes qui sont parties de zéro et qui ont créé aussi leur réseau.
Moi j'aime bien dire à un moment donné, pour créer ton réseau, deviens le réseau. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'en réalité, ce n'est pas juste prendre, c'est aussi apprendre à donner avant de vouloir gagner. Mais si on n'a rien à donner, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, déjà juste de l'attention, de la sincérité, de l'empathie, de la discussion, de la connexion. Le réseau, c'est un flux, ce n'est pas un stock. C'est une des seules choses que quand tu la partages avec quelqu'un d'autre, les deux individus deviennent plus riches. L'un, parce qu'il y a une sorte de dette de réciprocité ou en tout cas, il y a cette bienveillance qui va être réciproque derrière. L'autre, parce qu'on lui a résolu une problématique ou aidé à faire quelque chose. Moi, je termine quasi jamais une entrevue, un appel, une visio, une rencontre physique ou peu importe, sans demander à la personne, lorsqu'on est tous les deux, comment je peux t'aider ? Est-ce que je peux t'aider ? Est-ce que je peux te connecter à quelqu'un, etc. Et ce n'est pas du tout dans l'attente d'une réciprocité directe, mais c'est parce que j'ai compris à quel point le réseau peut tout changer. 100% des plus grandes transformations dans ma vie, quelles qu'elles soient, professionnelles comme personnelles, sont issues de rencontres. Donc naturellement, j'ai qu'une envie, c'est d'en faire plus et plus et plus encore, parce que c'est de l'effet cumulé et c'est la somme de tous ces éléments qui donne le résultat de là où j'en suis aujourd'hui et là où j'en serai demain.
C'est ça, du coup, l'élément déterminant qui fait que tu passes aussi à la seconde étape, c'est la rencontre. Toi, je sais que c'est avec ton meilleur ami. Vous aviez entrepris un projet.
Bien sûr.
Et ça a été un élément déclencheur fondamental.
Oui, alors à l'époque, ce n'était pas mon meilleur ami. Je le rencontre comme ça, par la force des choses. On a plus ou moins le même âge, dans un cadre qui n'est pas du tout propice à ce que des jeunes de notre âge s'y retrouvent, tu vois, autour du marché financier, du trading, etc. Moi, je voulais me former. Tu parlais de formation tout à l'heure. C'est clé, c'est capital. J'avais pas de sous. Je cumulais 3 jobs à ce moment-là. J'étais ouvrier à l'usine la journée, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end pour essayer d'engranger un maximum d'argent. Je n'avais pas. J'ai vraiment commencé de zéro, voire même un petit peu en dessous de zéro. Mais j'avais besoin de sous pour lancer ma boîte. Et lorsque je le rencontre, coup de foudre amical, tout de suite. Et un an et demi plus tard, on crée notre première entreprise ensemble, en Suisse, du coup, avec notre petit capital, etc., toutes nos économies. Et derrière, ça a été une aventure absolument dingue. Et typiquement, ça m'a permis de m'émanciper, ça m'a permis de prendre confiance en moi, très complémentaire. Lui plus dans l'ombre, moi plus dans la lumière. Donc, j'ai dû apprendre à l'être. Et puis, c'est de fil en aiguille d'autres rencontres qui ont créé d'autres opportunités naturellement.
Tu disais tout à l'heure que ce n'est pas le contexte économique, c'est l'état d'esprit, c'est comment on se sent finalement, comment est-ce qu'on aborde son rapport à l'argent, comment est-ce qu'on aborde aussi la vente, comment est-ce qu'on aborde sa communication. En fait, c'est le problème, quand ça ne marche pas, il vient forcément de soi.
On ne peut pas remettre la faute sur l'extérieur en permanence. On peut se trouver des excuses un temps, mais à un moment donné, il faut savoir que c'est nous qui sommes maîtres de nos choix et de notre vie. On est maître de nos erreurs, on est maître de nos succès, mais on est responsable de tout dans sa propre vie, je considère. On est responsable de son entourage. On ne décide pas de là où on est, mais on peut décider des gens avec qui on a envie de continuer de vivre, les gens qu'on n'a plus envie de voir, qu'on peut, pas parce qu'on les aime plus, mais parce qu'ils ne font plus partie de ce qu'on veut créer ou qui, à un moment donné, les écarts, quand on commence à gagner sa vie, quand une auto-entreprise se développe, la vie, elle change, notre entourage, il change, il y a un écart qui se crée. Et je pense que oui, on est responsable de son succès, même si on connecte, même si on a des choses, comme on dit, si on crée sa propre chance, on est autant responsable de ses succès que de ses échecs.
Moi, j'en connais des gens qui se plaignent de leur salaire, qui se plaignent du lundi, qui se plaignent de leur vie.
C'est dur hein, pour les gens. Il ne faut pas se dire que l'entrepreneuriat, c'est magique et que ça va résoudre tous les problèmes du monde, parce que l'entrepreneuriat, c'est difficile. On se retrouve tout seul. Et oui, il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui viennent de milieux sociaux où justement, ils sont vraiment dans un carcan mental et puis parfois avec des dettes, qui n'ont pas eu d'éducation financière. Moi, je viens d'une famille où l'argent, c'était très tabou et il y a une mauvaise gestion financière et ça m'a construit avec les années, mais j'ai dû m'en sortir.
Donc, il faut quand même reconnaître que de là où on vient, ça excuse le fait des fois que...
Ça peut être plus dur, bien sûr.
On n'évolue pas plus.
Ah oui, bien sûr. Quand on vient du RSA, de familles qui galèrent avec plein d'enfants, qui touchent des aides, qui partent vraiment de rien, justement. Des gens qui ont entrepris, qui partent vraiment de rien, pas que ceux qui sont sur le plateau et qui ne sont pas issus de grandes écoles, qui n'ont pas les contacts, qui n'ont pas la notion de comment monter une boîte, comment on la structure, qui n'ont pas tout ça, c'est plus dur. Et il y a des gens qui galèrent, qui sont salariés. D'ailleurs, moi, j'invite vivement les entrepreneurs à ne pas cracher sur le salariat. C'est un peu la mode en ce moment, deviens ton propre chef. Mais quand on se développe, on est content d'avoir des équipes et des gens qui bossent pour nous, etc. Et je pense que c'est important de valoriser les gens qui ne sont pas forcément dans une nature, un tempérament d'entrepreneur. Parce que je pense que c'est aussi une question de tempérament. Qui rêvent peut-être grand, mais qui vont faire différemment, qui vont plus s'en chier parce que c'est moins dans leur nature aussi et qui vont moins avoir le réflexe de se former, d'aller créer leur chance, d'aller voir où sont les opportunités. Mais oui, il y a des gens qui peuvent aussi se trouver des excuses. Mais
voilà. Moi, je pense qu'il faut quand même... En fait, c'est un choix de ce qu'on écoute, ne serait-ce que ça. Si tu écoutes le podcast des indépendants, forcément, à un moment donné, tu vas te dire... ce que je conseille, évidemment. Forcément, à un moment donné, tu vas te dire « Bah ouais, j'ai envie d'entreprendre. Ouais. » Donc, c'est aussi le choix de ce que tu fais de ton temps, quand même. Hein. Quand tu consommes du divertissement, du Netflix, etc., ou d'autres, tu pourrais écouter des émissions business, par exemple, et ça t'amène vers ça aussi.
Ouais. C'est des neurosciences, hein. C'est le mindset, c'est-à-dire que si tu alimentes ton cerveau avec des informations nouvelles, si tu alimentes son cerveau avec des choses qui te permettent de grandir, tes biais cognitifs changent en fait. Et c'est ça qui est super important. Et moi, je l'ai appris il n'y a pas très très longtemps. Mais c'est ça en fait, c'est pour ça que je suis là aussi. Et merci de m'inviter et de donner cette parole à ces personnes-là qui, peut-être pendant très longtemps, avaient ces ruminations sur tout un tas de choses. À un moment donné, une rumination, il y a deux options. Soit tu continues dans ta rumination et tu acceptes peut-être justement d'avoir ce boulot qui te plaît pas. Soit tu te dis, ok, factuellement, qu'est-ce que je peux faire pour changer le truc ? Et donc, l'idée, c'est de quantifier ton objectif. C'est quoi ton objectif ? On a tous des objectifs qui sont différents. Tu vas le quantifier. Et moi, j'ai un truc qui fait que je vais faire un rétro-planning avec chaque petite action que je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir me créer mon réseau, pour pouvoir peut-être me former parce qu'il me manque des compétences, pour pouvoir peut-être, en termes de logistique, avoir quelque chose qui soit plus efficace, en fait.
C'est de la stratégie. Mais ça veut bien dire que si on écoute les bons contenus, etc., on peut décider, c'est de la neuroscience, tu l'as dit, donc on peut décider à un moment de changer de vision et de sortir des carcans que tu as évoqués, Justine.
Est-ce que ce n'est pas aussi une curiosité personnelle ? Je pense qu'on a tous été curieux dans notre domaine, justement, d'avoir cette envie de ne pas regarder de la télé-réalité le soir et plutôt de regarder un podcast, d'avoir envie de lire un livre. Quel livre ? De la romance, plutôt un livre sur le parcours de quelqu'un. En fait, je pense que ça vient aussi d'une conviction profonde, d'une envie personnelle qui fait que... Il y a des gens qui vont choper justement des envies de changement dans leur vie, de leur entourage, de ce qu'ils vont consommer. Mais tu as raison, hein. Plus tu vas consommer de la bêtise, plus tu vas t'abrutir et moins ton cerveau va être... On n'a pas de l'énergie illimitée, on a une batterie sociale, une batterie mentale. Et si on l'utilise mal, on gâche ses chances, c'est sûr. Hein.
Toi, Ludo, Buffett, pardon, a évoqué le fait qu'il y avait une stratégie, un plan d'action, etc. Toi, tu es beaucoup là-dedans.
À fond.
Toi, t'es beaucoup là-dedans. Je me souviens, on a discuté. Et il me dit, Ludo, il faut que t'aies une stratégie.
C'est fou dans l'art.
J'ai un plan sur 15 ans. Je suis à 12. Et donc, chaque année, je dépasse mes objectifs. J'ai eu vraiment une stratégie. Quand j'ai commencé dans l'art, j'ai dit... Ma première exposition, c'était le Petit Palais. Donc, on arrive par la Grande Porte Dorée. Tout le monde connaît à Paris. Je me dis, je ne peux pas aller exposer dans une pizzeria. Après ça, c'est impossible. Et là, j'ai décidé que j'allais faire un plan concret. Et donc, c'est là où j'ai commencé à exposer dans tous les monuments historiques. Chaque année, j'exposais dans un monument, même parfois deux monuments par an, et ainsi de suite, avec toute la logistique derrière et avec un vrai but qui brille bien là-haut, en haut de l'escalier, avec des paliers, alors comme tu disais tout à l'heure, avec des petites actions chaque jour à faire. Donc, j'ai ma to-do list tous les jours et j'avance. Et donc, c'est vraiment à l'année. En début d'année, j'ai fait mon planning pour l'année 2026. Donc, je sais concrètement ce que je dois faire.
Et tu n'as pas attendu ChatGPT ?
Ah non, je n'ai pas attendu ChatGPT pour faire ça. Hein. Mais n'empêche que l'IA, c'est incroyable. Ça facilite, c'est un facilitateur, pour être honnête. Il faut impérativement implémenter l'IA aujourd'hui dans son business.
Et dans sa stratégie de vie personnelle. Est-ce que toi, Justine, t'es pareil, t'es plutôt du genre à être comme ça, stratège, avoir un plan d'action et une projection et savoir où tu vas?
Ah oui, totalement.
J'ai l'impression.
Ouais, oui. D'autant plus ces dernières années. Peut-être c'était plus freestyle au départ. Comme ça commençait comme de la passion, j'ai plutôt laissé aussi les années se passer. Puis plus j'ai grandi, plus j'ai entrepris, plus j'ai été ambitieuse, plus ma vision s'est élargie. Et oui, moi j'utilise les to-do list. Je fais pas des grands plans de visualisation avec du journaling le matin. Ça peut aider certaines personnes perso. J'ai essayé, mais voilà, moi j'aime bien savoir, effectivement comme toi, Je me fais, qu'est-ce que je veux faire dans mon année non négociable, réalisable, dans une année, à 3 ans, à 10 ans. Ça va orienter mes choix, ça va orienter mes décisions, mon énergie.
Ça pose un cadre, en fait.
Ouais. Mmh.
Complètement. Et il y a énormément de choses hyper intéressantes qui ont été dites ici, mais surtout le plus important, c'est pas d'écouter des podcasts ou autre, c'est de passer à l'action. Si on a tous un point en commun, c'est qu'on ait ou pas écouté des podcasts, qu'on ait lu ou pas des livres, qu'on ait regardé des vidéos.
On fait les
pas.
Deux, Alec, on fait les deux.
On peut faire les deux et on doit faire les deux, parce qu'effectivement, de l'information découle l'action, mais trop d'informations empêchent l'action également. Il y a trop de gens qui sont un peu paralysés par rapport à ça. Et tu l'as très justement dit, c'est plus dur pour certains selon là où on démarre, complètement, mais c'est pas impossible pour autant. Et on a trop tendance à se dire « Ah oui, mais moi, j'y arriverai pas parce que si, parce que ça. » Peut-être même une sorte de narratif que tu t'es raconté pendant trop nombreuses années. Et aujourd'hui, tu as débloqué un truc, tu parlais de déclic, ça me parle. Et naturellement, bah, derrière, aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Et plus tu vas avancer, plus bah, tes 58K, ça sera mensuel, pas annuel. Et ça, c'est complètement possible, je veux dire. Et un jour, ce sera peut-être même journalier. En fait, la seule chose qui différencie ta capacité à le
continue
faire
continue à
pas,
fréquenter Alec.
C'est qu'une question de décision et d'action, surtout derrière. Bien sûr, plan d'action, IA, pas IA, peu importe, mais il faut avancer de manière structurée. Et aujourd'hui, il y a énormément d'entrepreneurs. Et je ne parle pas d'entrepreneurs qui se lancent. Je parle d'entrepreneurs qui ont déjà des boîtes bien lancées depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui ont des salariés, etc. Ils pilotent à vue. Ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire, même pas à l'année, mais à la semaine.
Ah oui.
Et donc, c'est urgence après urgence, post-it après post-it, appel après appel, email après email.
C'est plus des artistes que des entrepreneurs, quoi.
Des artisans.
Des artisans.
Des artisans, c'est des artisans. Et ils se racontent une narrative, ils pensent qu'ils sont occupés, mais en fait, ils ne passent pas le temps là où ils devraient passer le temps pour pouvoir générer plus de valeur, créer plus de valeur, mais parce qu'on ne leur a pas appris non plus.
Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça, c'était moi avant, en fait.
Ouais, donc à un moment donné, tu décides que ça change, quoi.
Exactement. Ouais. Et je voudrais juste rebondir sur un truc qui, je trouve, est assez intéressant, c'est qu'en France, on a vraiment ce truc-là de « il ne faut pas se gaufrer ». Il faut pas se tromper, quoi.
J'allais dire, ouais. Et attendre que le plan soit parfait.
Ouais. Voilà.
Les gens veulent attendre que ce soit parfait, comme sur les réseaux.
Ah, non, mais ça,
comme,
ouais.
Ah, si t'attends que ce soit parfait, tu vas jamais.
Et du coup, tu fais pas d'action.
Parfait, ouais, donc.
Du coup, t'as pas d'action, en fait.
Ouais.
Alors que si tu pars du principe qu'aux États-Unis, ils sont pas du tout comme ça, ils sont sur une action où ils testent. Et les bêta-tests, etc., ça marche super bien, en fait.
Il faut tester, il faut essayer. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à écouter la saison 1 du podcast des Indépendants. Vous verrez qu'on a bien testé. Avant d'en être là. Hein. Ce n'est pas du tout le même format. Il y a des choses qui ont été faites, etc. On a essayé. Et ce n'était pas effectivement ce type-là avec 4 invités, etc. Donc, on voit vraiment l'évolution.
Mmh.
Et je pense que tous les projets sont comme ça, en fait. On voit l'évolution et c'est ta capacité vraiment à t'adapter, à rester motivé. Vous, qu'est-ce qui vous motive quand c'est la galère?
C'est tous les jours la galère. Et je pense qu'il y a un côté, presque, pas dire sadomaso, mais tu as cette énergie, cette envie. Parce que si tu es dans la galère, tu sais que tu es au bon endroit. Si t'es réellement ambitieux.
Du fait, quand on a préparé cet épisode, tu m'as dit ça dépend aussi beaucoup de soi dans comment on se perçoit. Parce que des fois, on essaie de se lisser au début quand on n'a pas confiance en soi, quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas les codes. On se dit, attends, il faut que je ressemble à ça, à lui. Ou... En fait, nos singularités, on en a honte.
Et on en parlait tout à l'heure, justement, je faisais la ref à Lady Gaga. Lady Gaga qui est vraiment une personne qui en a chié, vraiment. Fibromyalgie, enfin, vraiment beaucoup de problèmes. Elle a eu du harcèlement, etc., etc. Et en fait, Lady Gaga, c'est vraiment quelqu'un de complètement disruptif, en fait, de complètement... Et en fait, c'est ça, je crois que dans l'entrepreneuriat, surtout maintenant, il faut arrêter de se lisser parce que vous courez à la catastrophe.
Ah, ça, c'est enfin... l'une des clés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est faut pas se lisser, pas les cheveux, hein. Je ne peux plus m'empêcher.
Je le vois d'autant plus, c'est un parallèle qui est puissant sur les réseaux sociaux.
Ouais.
On sait que les personnes qui se démarquent le plus sont les gens qui sortent du lot.
Ouais.
Alors parfois, c'est extrapolé et certains s'inventent des particularités qu'ils n'ont pas. Mais c'est sûr, qu'est-ce qui fait la différence quand on a notamment du personal branding, quand ta marque est...
C'est le grain de folie.
C'est la différenciation.
Ouais. Ouais.
Qu'est-ce qui fait que tu es différent? Bah, c'est que tu n'as pas la même personnalité que ta voisine, que ton voisin, que tu as une histoire, que ça t'est propre. Si tu as un handicap, que ça a une particularité physique, une personnalité qui est différente, ou un caractère qui est plus affirmé, il ne faut pas hésiter.
Mais même sans parler de réseaux sociaux et de personal branding, même, tu sais, pour aller vendre.
Ouais.
Tu vois, pour aller au contact, pour mettre en place, je sais pas, un site ou en fait juste se faire confiance par rapport à la vision qu'on a et à la manière dont on pense les choses.
Et je vais rebondir sur ce que tu viens juste de dire. Tu dis qu'il faut avoir un grain de folie. Eh bien, pas nécessairement. Si on prend l'exemple d'Amandine Barthe, en fait, elle est quelqu'un d'assez hypersensible, d'être très, très calme, très introvertie et elle cartonne. Donc, on est aussi parfois dans des croyances, c'est-à-dire que le personal branding, c'est pas non plus être parlé
comme
forcément
up,
fort
ouais.
ou... Enfin, voilà.
Donc, Alec, toi, t'étais plutôt discret aussi comme...
Je sais pas si je pourrais me qualifier de discret, mais en tout cas, j'essaie d'être là où il faut être.
T'es pas quelqu'un d'exubérant.
Non, j'essaie d'être là où il faut être,
t'es
au bon moment, serein parce qu'il y a de la maîtrise. J'aime maîtriser les choses. Mais tu vois, je rebondis sur le grain de folie. Le grain de folie, il doit être quand même dans la personnalité de l'entrepreneur. Parce qu'il faut être assez fou pour se lancer d'un avion et créer son parachute pendant qu'on est en train de tomber en chute libre. C'est ça, entreprendre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à chaque fois, tu dois t'adapter. Là, on parle de générer du chiffre d'affaires, d'atteindre des objectifs, etc. Mais la réalité, c'est qu'après, l'étape suivante, c'est que tu as des charges, tu as des équipes, tu dois y faire face. Et puis, tu n'as pas été habitué à ça au départ. Pour ceux qui partent vraiment de rien, vraiment de zéro, quand tu dois sortir 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 tous les mois pour payer des salariés, par exemple, ce rapport à l'argent, ce rapport à la pression, ce truc, et vous l'avez tous dit, hein, on est seul. Et il n'y a personne pour pouvoir te taper sur l'épaule ou te soutenir.
Je pense qu'il y a quand même un truc. Parce que quand tu me dis ça, tu vois, moi qui suis entrepreneur depuis mes 15 ans, moi, je trouve ça hyper stimulant. Des fois, je suis là en train de me dire, tu vois, genre, c'est un peu compliqué là au niveau des deals et tout. On a des charges fixes. On va se retrouver. Ça risque d'être un peu chaud, tu vois. Mais putain, mais ça me donne une niaque.
Ouais.
J'ai envie d'y aller, quoi, et de trouver des nouvelles idées et de communiquer différemment et de me dire, mais comment est-ce que je peux trouver plus d'argent? Et ça me stimule.
Créer du chaos, aimer créer du chaos, avoir ce grain de folie, mais entrepreneurial et pas que dans la personnalité, parce qu'il faut rester authentique, il faut rester soi-même. Avoir envie de créer du chaos, ne pas attendre que les choses se stagnent et soient toutes lisses, avoir envie de remettre de la difficulté, des nouveaux enjeux, des nouveaux objectifs, être constamment en mouvement, avoir toujours la vision qui s'élargit, ne pas avoir peur, parce que souvent quand on part de rien et qu'on ne nous a pas appris à ne pas avoir peur, on a beaucoup de
limitations. On reste figé un peu, on reste un peu paralysé.
Ouais.
Quand tu dis c'est le chaos, c'est vrai que le chaos, en fait, anime, tu vois, parce que mine de rien, on était tous un peu dans la merde. Il y a eu quand même une période où c'était quand même assez compliqué.
Quand t'as pas le choix, tu cherches.
Quand t'as pas le choix, tu cherches les solutions, quoi, tu vois.
Plus que quand c'est calme.
Plus que quand c'est calme. Moi, je l'ai vu vraiment dans mon parcours de vie, quand c'est calme et confortable, ça ronronne. Hein.
Ouais.
C'est le risque.
C'est l'ennemi de l'entrepreneur, le confort.
Ouais.
Même sans concurrence, sans rien, sans challenge, sans difficulté, tu t'endors dans ton business, tu te dis, je suis pépouse, tout va bien. Et au final, tu te rends compte qu'à un moment donné, ton business, il stagne. Ou alors, dès qu'il y a une vraie problématique, tu paniques. Alors, quand tu crées du chaos, tu renouvelles certaines opportunités, tu changes tes équipes, tu te dis, là, c'est trop lisse, il se passe quelque chose, il faut remettre des enjeux. Nous, on le voit dans la boîte, on essaie de passer des paliers parce que même si on a beaucoup entrepris, que ça marche bien, si on veut aller chercher les steps d'après, il faut qu'on se remette en difficulté sur certaines choses. Ça fait peur, mais on recrée du chaos, alors qu'on pourrait se dire on a une belle stabilité, une belle croissance légère progressive, mais si on veut que ça parte en x10, il faut remettre du chaos dans tout ça. Et ça fait peur. Alors, il y a des tempéraments d'entrepreneurs qui ont plus peur que d'autres, ceux par exemple qui sont accompagnés par Alex sur plein de sujets pour sortir justement de cette guerre un peu quotidienne et avoir une vision plus large, mais créer un chaos qui va être utile, pas créer un chaos qui va venir détruire ta société, détruire tes équipes, ton organisation interne, mais créer un chaos qui va t'aider à passer à la step supérieure.
Complètement. Et il y a un vrai chaos là en ce moment. Tu parlais d'IA tout à l'heure.
Oui.
L'IA, c'est le plus gros inconfort auquel tous les entrepreneurs ont été amenés à être, dans le sens où si tu l'adoptes, tu as un avantage concurrentiel énorme sur tous les autres. Si tu ne l'adoptes pas, consciemment ou inconsciemment, selon ton niveau de compétence.
Il faut y aller là, sur l'IA, ouais.
Ah ouais, c'est se tirer une balle dans le pied juste avant de courir un marathon, littéralement. Ne pas utiliser l'IA et qu'on fasse 5 000 ou 5 millions de chiffres d'affaires, c'est la même chose pour tout le monde.
Est-ce que le sport aussi, ça, c'est un levier quand on est... Enfin, moi, je sais que je suis assez comme ça. J'ai besoin d'aller me dépenser, tu vois, d'aller faire du cardio, d'aller faire des pompes lorsque c'est compliqué. Et ça, c'est quand même un vrai levier. Alors, on va dire, ouais, c'est un peu cliché. Il dit qu'il faut faire du sport pour garder la pêche. Mais en fait, c'est vrai, oui, Justine.
Ah bah moi, tu prêches, je suis convaincue. Moi, je pense qu'il n'y a pas meilleur investissement. Non, il n'y a pas de meilleur investissement sur soi que de faire du sport. Et moi encore, on va enlever de côté l'aspect purement changement esthétique. On se met dans la tête de quelqu'un qui travaille tous les jours, qui a sur ses épaules la pression de dizaines de personnes, même de soi-même, toute seule au départ, puis de dizaines, voire de centaines de personnes. Comment tu arrives à gérer le chaos dans ta tête si tu n'as pas des moments de relâche ? Le sport, la bonne alimentation permet à ton corps de ne pas avoir de causes extérieures qui vont venir brouiller ton jugement. Et on parle beaucoup, beaucoup d'études en ce moment sur la vitalité, la longévité, beaucoup, voilà, c'est le terme que je cherchais. La longévité permet à avoir un cerveau opérationnel pour prendre des grandes décisions. Faire du sport, s'entretenir, c'est se donner un maximum de chance. Alors, on n'a pas tous le temps. Quand on est entrepreneur, comme des gens avec 5 enfants, le temps manque à tout le monde. Mais c'est comment est-ce qu'on trouve un peu de temps, pas pour faire un athlète de haut niveau et aller courir des marathons, des aerox tous les week-ends, mais pour pouvoir amener une hygiène de vie qui te permet d'optimiser ton entreprise.
Alex, sportif aussi.
Moi, ça m'a sauvé. J'étais timide, introverti encore une fois. Je faisais 25 kilos, 30 kilos de moins qu'aujourd'hui.
J'ai eu peur, heureusement que tu as vu deux mois.
Non, non, vraiment, le sport m'a émancipé, permis de me rendre compte qu'il y a des choses qui sont possibles. J'ai pu rencontrer des gens, contacter des gens, me faire confiance à moi. Et la première des choses, je pense, c'est d'oser se faire confiance à soi-même. Aucun client ne va vous faire confiance si déjà vous ne vous faites pas confiance à vous-même. Et ça, c'est la première des étapes. Alors, il y a le sport, il y a d'autres choses, mais il faut effectivement, comme tu l'as très bien dit, cette soupape de décompression. C'est énormément de pression. Et donc, si ça se retranscrit par le sport, c'est super, il y a plein de bénéfices. Ça retranscrit par autre chose, c'est très bien aussi.
Et le gain de confiance en soi, il est énorme, comme tu as dit.
Oui, c'est clair. Quand on parle sport, on parle assez un peu de discipline. Alors, on va dire là, vraiment dans les clichés, quoi, la discipline, le sport. Mais je pense que c'est aussi ça, l'entrepreneuriat.
Parallèle, il est fort, bien sûr. Quand tu te crées une routine, quand tu t'entraînes, quand tu n'as pas envie de t'entraîner, c'est pareil que quand tu dois travailler dans les périodes où c'est plus difficile, où tu n'as pas envie d'entreprendre, où c'est plus dur. Quand tu dois te mettre une certaine discipline alimentaire, une routine, ce n'est pas facile. La prise en main physique, comme l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain sans changer ses habitudes, sans changer son mindset et sans prendre confiance en soi vraiment. Et la confiance en soi, elle vient en pratiquant. C'est comme l'entrepreneuriat. On se lance et pendant qu'on tombe, on crée son parachute de confiance, on crée son corps, on se rend compte qu'on est capable de se dire « Ah putain, j'étais pas capable de faire ça il y a un an, j'y suis arrivée » et ça change ça fait un twist mental, je trouve. Ça reformate ton cerveau.
Et c'est là aussi, moi, ce que j'adore en ce moment-là, c'est le sentiment de fierté.
Beaucoup. D'accomplissement personnel. On s'accomplit avec mon mari beaucoup dans l'entrepreneuriat, mais on s'accomplit énormément dans le sport. Et ça nous permet d'avoir un vrai équilibre, même pour notre santé mentale. Parce que sans ça, où tu vas, quoi ? Où est-ce que tu vas si tu n'as pas d'objectif dans ta vie ? Ça peut être n'importe quel type d'objectif. Avoir une famille, monter une entreprise, faire une licorne. Voilà, c'est beaucoup les objectifs les plus ambitieux. Ta boîte, elle est partout dans le monde, ton produit est partout utilisé. Et tu vas courir tous les marathons du monde cette année. Tu te lances faire un Aerox, tu commences un 5 km.
On l'a lancé sur le sport, Justine, c'est terminé. On est parti pour
Je suis inarrêtable, comme le sport.
Déterminé, on a dit. Non. Il nous reste une minute pour conclure ce premier épisode de la saison 4. Quel message vous avez envie de faire passer pour finir cet épisode ?
Moi, je dirais qu'il n'y a pas de bon moment. C'est maintenant. En fait, les gens, ils croient que c'est bon, je vais lire ce bouquin, je vais faire machin et je vais avoir confiance. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. En faisant, en étant dans l'action, que la confiance, elle va arriver, en fait.
Il faut faire pour savoir, quoi.
Vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place.
C'est dans la continuité de Buffett. Mais oui, de toute façon, il faut tester, il faut se ramasser, il faut réessayer. Et que comme ça qu'on sait si ça marche, si ça nous plaît, etc. Et c'est là aussi que ça devient drôle, il faut le dire, parce que la vie, moi, c'est un peu mon mantra, la vie, c'est un jeu. Donc tu essayes, tu tentes et tu vois comment ça se passe. Et c'est de l'expérimentation perpétuelle, en fait. Et quand tu pars de rien, parce que ce n'est pas question de dépenser son argent bêtement quand je dis ça, ou de lancer des projets sans réfléchir. S'il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'options que c'est ça qui est passionnant.
Et je rebondis juste sur un point, tu as parlé de clichés tout à l'heure, de discipline, pardon. Et tu as dit, oh, je rentre dans les clichés, etc. Mais moi, par exemple, j'ai énormément de respect pour des parcours comme le tien. Tu disais tout à l'heure que ça fait 13 ans où on galère, etc. Donc là, on ne parle pas de motivation. La motivation, ça te réveille le matin 2-3 semaines pour faire ton sport ou autre, mais ça ne tient pas sur 13 ans. C'est de la discipline. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et ceux qui vraiment y arrivent, c'est ceux qui vont réussir à se discipliner pour ça. Donc, début d'année, pour revenir à ton propos de démarrage, soyez disciplinés tous les jours, une petite action qui fera vraiment la différence. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place.
Justine ?
N'ayez pas peur de vos rêves. Commencez petit, continuez de construire de plus en plus grand, mais n'ayez pas peur de rêver, n'ayez pas peur de vos ambitions, n'ayez pas peur d'avoir envie de gagner plus d'argent, ne pas avoir honte de commencer le sport, de vouloir que son entreprise elle soit bien plus que ce qu'elle est. Et après, j'ai une deuxième phrase qui me tient à cœur, c'est « si on veut ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait, sortir de sa zone de confort, prendre des risques. »
Indispensable. Ludo ?
Moi, je dirais que... Entre un objectif et un rêve, il y a juste une différence, c'est une date. Si vous rêvez de partir en Thaïlande, pour un exemple, vous allez dire « je veux partir en Thaïlande à telle date » et vous allez commencer à faire des actions. Vous allez décider dans quel hôtel, vous allez décider avec quelle compagnie aérienne, vous allez commencer à prendre plein de décisions qui vont faire que ce rêve va devenir une réalité. Et bien, c'est la même chose quand on veut faire carrière, transformer sa passion en métier, par exemple. Et bien, il suffit simplement de décider à quel moment on veut lancer ça et on va commencer à faire notre petite stratégie et notre plan et après c'est parti.
J'adore l'image parce qu'en fait c'est effectivement tu pars en vacances, bon bah tu anticipes, tu t'organises et tu finis par y aller en Thaïlande, tu vois. Et donc c'est parce que tu as mis en place un certain nombre d'actions et quand on voit le truc comme ça, on se dit bah ouais, bah c'est pareil effectivement pour un projet de vie. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été là pour ce premier épisode de la saison 4 du podcast des indépendants. J'espère que ça vous aura donné la niaque et beaucoup d'énergie et on se retrouve un jeudi sur deux sur BFM Business avec un nouvel épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter. À bientôt.
C'était le podcast des indépendants sur BFM Business. Retrouvez Ludovic Badeau et ses invités un mercredi sur deux. Pensez à noter l'épisode si vous avez aimé l'écouter.